Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. C'est arrivé ce lundi en Cisjordanie occupée. Un Palestinien âgé de 20 ans a été tué par balle par des soldats israéliens. La visite d'État en France du président algérien est désormais prévue en juin prochain. Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont entretenus par téléphone ce dimanche. Le collectif Handicap demande le report de la conférence nationale du handicap. Elle doit se tenir mercredi prochain. Notre invité sera le coordinateur national de ce collectif, Stéphane Lenoir. La future loi sur l'immigration, Emmanuel Macron souhaite finalement qu'elle soit présentée en un seul texte. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués du Soudan, le pays théâtre de combats meurtriers entre l'armée régulière et paramilitaire depuis 9 jours. Le Soudan, où l'ambassade de France est fermée jusqu'à nouvel ordre. Les Comores affirment avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte, des personnes expulsées par la France. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier était Charlotte Saliou pour Le Refuge des Étoiles, roman publié aux éditions Black Elephant, un roman qui évoque l'hôtel La Louisiane, extrait de votre édition. Un Palestinien a été tué ce lundi par des soldats israéliens en Cisjordanie occupée, une annonce du ministère palestinien de la Santé. L'homme âgé de 20 ans a été tué par balle dans un camp de réfugiés près de Jéricho. De son côté, l'armée israélienne parle d'une opération antiterroriste. Elle devait avoir lieu les 2 et 3 mai prochains. La visite d'État du président algérien en France a été repoussée d'un commun accord à la deuxième moitié du mois de juin. Les présidents français et algériens ont évoqué lors d'un entretien téléphonique les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. Emmanuel Macron a par ailleurs présenté à Abdelmadjid Tebboune ainsi qu'au peuple algérien ses vœux à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr. Elle est prévue mercredi prochain. La conférence nationale du handicap doit permettre au chef de l'État de défendre la politique de son gouvernement sur le handicap. Dans une lettre adressée à Emmanuel Macron, le collectif Handicap demande le report de cette conférence nationale. Le coordinateur national de ce collectif, Stéphane Lenoir.
On demande le report de la conférence nationale du handicap parce que nous estimons aujourd'hui que les travaux préparatoires à la CNH n'ont pas abouti à ce stade, à des orientations claires et ambitieuses pour le droit des personnes en situation de handicap. Et surtout, nous n'avons aucune visibilité sur les moyens qui vont être alloués à ces objectifs. Donc pour nous, c'est problématique dans la mesure où il y a pour un certain nombre de droits, et je pense par exemple à l'accessibilité, une attente extrêmement forte depuis maintenant plus de 40 ans. Et donc nous ne voulons pas que cette conférence nationale du handicap soit uniquement une succession de tables rondes et une communication de l'Élysée. Nous voulons l'expression d'une ambition extrêmement forte de la part du président de la République et encore une fois avec une programmation budgétaire jusqu'à la fin du quinquennat.
Et vous demandez au gouvernement de répondre à la décision du Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe qui dénonce une violation des droits des personnes en situation de handicap par l'État français.
Tout à fait. Et l'État français, en fait, est averti, a été informé depuis décembre 2022 de cette décision du Conseil de l'Europe. Et ça, on en a eu aucune trace dans les travaux préparatoires à la conférence nationale du handicap. Donc en fait, c'est un élément supplémentaire qui nous laisse penser que une nouvelle fois, nous n'aurons pas d'ambition pour une politique du handicap. Et donc c'est effectivement une des raisons aussi pour laquelle nous demandons le report, c'est que nous attendons la réponse de l'État à cette décision du Conseil de l'Europe. Mais qui va dans le droit fil déjà de ce qu'avait dit le Comité des droits de l'ONU en septembre 2021. Donc en fait, on est bien dans un contexte où l'État français a encore du mal à mettre en place une politique pour la citoyenneté des personnes en situation de handicap.
Avez-vous été suffisamment concerté avant cette conférence nationale du handicap ?
Alors aujourd'hui, le collectif Handicap regroupe 52 associations nationales représentatives des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des aidants. Nous avons été invités aux réunions préparatoires. D'ailleurs, dès le début, nous avions insisté pour être plus nombreux à ces réunions. On nous avait limité à un seul participant par groupe de travail. Et je dirais pas qu'on a été concerté, on a été consulté. Mais en face, nous n'avions pas d'interlocuteur pour répondre aux nombreuses propositions que nous avons faites. Il y a eu des centaines d'heures de réunions qui ont mobilisé des salariés et des bénévoles du collectif handicap. Nous avons produit énormément de contributions, énormément de propositions, et aujourd'hui, nous n'avons quasiment aucun retour. Et ça, nous considérons que c'est inacceptable, notamment parce que, et l'ONU le dit, et le Conseil de l'Europe le dit aussi, la politique du handicap doit se co-construire avec les représentants des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, ça n'est toujours pas le cas.
Ces droits fondamentaux qui sont bafoués, comme le dénonce le Conseil de l'Europe, quels sont-ils ?
Ils sont de plusieurs ordres. Hein. On parlait tout à l'heure d'accessibilité. Bah voilà, encore une fois, la France se fait épingler sur sa politique d'accessibilité. La France n'est toujours pas accessible à l'ensemble des personnes en situation de handicap. Donc on ne cesse de le répéter. Le Conseil de l'Europe le dit à nouveau. La France a également été épinglée sur les questions de santé. Des personnes en situation de handicap n'ont pas accès à la santé. La France a été épinglée sur la question de l'éducation, mais aussi sur les ressources qui sont insuffisantes et qui lèvent dans la précarité les familles et les personnes en situation de handicap. Voilà déjà, alors il y en a d'autres, hein, il y a d'autres sujets sur la protection sociale des familles notamment, de manière générale sur la politique qui est toujours faite sans données. On manque toujours de données en France sur la situation des personnes en situation de handicap, ou par exemple sur une politique pour permettre aux personnes aujourd'hui sans solution d'avoir les accompagnements nécessaires.
Et vous soulignez qu'aucun motif budgétaire ne peut justifier les entraves aux droits fondamentaux.
Et oui, vous avez raison de le rappeler, parce que pour nous, c'est vraiment un postulat de base. Aujourd'hui, face à ces exigences, face au devoir de la France, à l'obligation de la France de mettre en place une politique pour lutter contre la discrimination, pour l'effectivité des droits, on ne peut pas aujourd'hui s'entendre dire qu'il n'y a pas les moyens budgétaires. Ils sont certes conséquents, ces moyens budgétaires, mais c'est la raison pour laquelle nous demandons une programmation pluriannuelle et que nous n'avons pas. Et on ne peut effectivement pas s'entendre dire, on ne peut pas mettre en place une politique du handicap parce que nous n'en avons pas les moyens, parce que c'est une violation directe pour les droits fondamentaux des personnes en situation de handicap.
Quelle serait la valeur de la Conférence nationale du handicap sans la participation du collectif handicap qui, vous l'avez rappelé, regroupe 52 associations ?
De notre côté, ça signifierait que le gouvernement continue dans une logique de ne pas co-construire les politiques publiques et de laisser de côté les acteurs de la société civile. Ça signifierait pour nous le mépris qu'ils portent à l'égard des personnes en situation de handicap, qui sont pour la plupart d'entre elles dans des situations de précarité, qui ne peuvent pas aller et venir comme elles le souhaitent. Donc ce serait, oui, véritablement un mépris supplémentaire.
Le handicap qui touche combien de personnes aujourd'hui en France ?
Alors aujourd'hui en France, on considère que le handicap concerne 12 millions de personnes en situation donc de handicap hein, en France, avec des situations extrêmement diverses. Mais pour une partie d'entre elles, encore une fois, elles sont discriminées au quotidien. Et ce qui n'est pas acceptable en 2023.
Une discrimination, notamment financière, les salaires des personnes handicapées sont inférieurs à celles des personnes valides ?
Alors effectivement, en termes de ressources, les personnes ont des difficultés à avoir un niveau de revenu identique à celui de la population générale. Alors soit parce qu'elles ne peuvent pas travailler et que l'AAH reste en dessous du seuil de pauvreté, mais aussi parce que quand elles travaillent, elles font face à des discriminations et à des plafonds de verre. Elles ne peuvent pas avoir les mêmes carrières que leurs collègues. Parfois, pour des raisons de santé, les carrières sont également hachées. Donc, ce qui a aussi après des conséquences, notamment sur les retraites. Donc voilà, il y a un ensemble de facteurs qui font que la population handicapée en France est moins aisée et a beaucoup plus de difficultés financières que la population générale.
Et les obligations des entreprises concernant l'emploi de personnes en situation de handicap sont-elles suffisamment connues aujourd'hui en France ?
Alors, je pense que les obligations sont connues, mais elles ne sont pas respectées par l'ensemble des entreprises et d'ailleurs aussi par les collectivités locales ou par l'État français, et donc ne respectent pas le taux de 6% d'emploi de travailleurs handicapés. Et donc, encore une fois, c'est assez révélateur de la considération portée à l'égard des travailleurs en situation de handicap qui, au quotidien, ont des difficultés.
6% dans l'ensemble des entreprises ou dans quelle catégorie d'entreprises?
Alors, effectivement, c'est 6% pour les entreprises de 20 salariés ou plus. Et donc, ce n'est pas pour l'ensemble des entreprises, mais c'est quand même pour une grande partie d'entre elles. Et pour celles qui sont concernées, toutes ne respectent pas ce taux d'emploi.
Et vous estimez que cette conférence nationale du handicap devrait être un marqueur du quinquennat si elle est faite dans les conditions que vous demandez?
Alors oui, tout à fait. Nous considérons, et nous avions déjà averti le gouvernement, que cette conférence nationale du handicap devait lancer le quinquennat sur la politique du handicap, dans la mesure où, lorsqu'Emmanuel Macron était candidat, il n'avait quasiment rien révélé de ses intentions à destination des personnes en situation de handicap. Nous avions quelques annonces sur la déconjugalisation de l'AAH, mais c'était quasiment tout. Sur tous les autres sujets, accessibilité, santé, logement, sur le droit à compensation, nous n'avions strictement aucune visibilité. Et donc l'enjeu de la CNH pour nous se situe là, c'est qu'il va lancer le reste du quinquennat, et donc évidemment, s'il n'y a pas d'ambition, eh bien, on va perdre encore 4 ans pour mettre en œuvre un droit effectif des personnes en situation de handicap.
Le coordinateur national du collectif handicap, Stéphane Lenoir. Plus de 1000 ressortissants de l'Union européenne ont été évacués du Soudan, le pays théâtre de combats meurtriers entre l'armée régulière et des paramilitaires depuis 9 jours. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, évoque une opération complexe couronnée de succès, dit-il. La France a annoncé avoir évacué près de 400 ressortissants français et de multiples nationalités du Soudan en assurant depuis ce dimanche plusieurs rotations aériennes entre Khartoum et Djibouti. Les combats ont fait plus de 420 morts et 3 700 blessés. Le Soudan, où l'ambassade de France est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. Les Comores affirment avoir refusé l'accostage d'un bateau transportant des migrants en provenance de Mayotte expulsé par la France. Les autorités comoriennes annoncent aussi avoir suspendu le trafic de passagers dans le port où les personnes expulsées sont habituellement débarquées. La future loi sur l'immigration, Emmanuel Macron souhaite finalement qu'elle soit présentée en un seul texte. Le président français avait annoncé il y a un mois le découpage de son projet. Le projet de loi initial porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui du Travail, Olivier Dussopt, comporte deux volets principaux. Des mesures pour faciliter et accélérer les expulsions des étrangers qui constitueraient une menace pour l'ordre public et des mesures de régularisation pour certains travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Lors de son allocution lundi dernier, Emmanuel Macron avait relancé le sujet et promis de renforcer, selon ses mots, le contrôle de l'immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient ce week-end était Charlotte Saliou pour Le Refuge des Étoiles, un roman publié aux éditions Black Elephant, un roman qui évoque l'hôtel La Louisiane dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris, un lieu chargé d'histoire qui a accueilli des clients célèbres de Jean-Paul Sartre à Juliette Gréco, extrait de cette émission.
C'est un hôtel qui a une riche, riche histoire et aussi toutes les petites histoires contribuent à cette grande histoire. Mais pour faire simple et rapidement, si on peut, puisque l'hôtel fête son bicentenaire cette année, il s'appelle l'hôtel La Louisiane depuis 1823. Il est la propriété de la même famille depuis l'après-première guerre mondiale. Je pense qu'on est à ce moment-là en 1926. Et c'est un hôtel qui a été la propriété de Jurassiens. Donc ces familles jurassiennes qui viennent de leur province, de leur montagne, s'établir à Paris pour faire une autre vie, c'est l'exode rural. Et cette famille, de fil en aiguille, va accueillir les artistes. Alors comment ? Ça se joue très simplement, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'hôtel est chauffé au charbon. C'est une denrée très très rare à l'époque. Le Café de Flore a eu cette chance également. Et ça plaît à Jean-Paul Sartre notamment, qui peut y écrire dans le confort, qui s'y sent bien. Et puis, à cette époque aussi, on loue sa chambre très facilement quand on la paye, bien sûr, c'est ça aussi, et on la loue au mois ou sur des périodes longues, ce qui facilite largement la vie des artistes, la vie bohème de cette époque, puisque pendant la Deuxième Guerre mondiale, on ne pouvait pas s'engager sur des périodes très longues et qui voyait l'avenir.
On sait pourquoi il s'appelle la Louisiane ?
Alors oui, la Louisiane, il s'appelle comme ça. Ça vient d'un officier de la garde napoléonienne qui, de retour de Louisiane, a nommé l'hôtel du 60 rue de Seine, l'hôtel La Louisiane, ainsi.
J'imagine que ça plaît notamment aux artistes américains ?
Beaucoup, puisque effectivement, il y a aussi tout cet aspect. Les jazzman,
Miles Davis
qui a eu sa relation, son idylle avec Juliette Gréco justement à l'hôtel, une idylle restée discrète à l'époque puisque il a voulu la protéger du racisme, des discriminations et il a dit, Sartre a dit, c'est l'anecdote, mais Sartre a dit, Juliette Gréco le raconte dans les médias à l'époque, Sartre dit mais pourquoi Miles Davis tu n'épouses pas Juliette Gréco, la Gréco, parce qu'avec moi elle souffrirait trop du racisme en fait et elle le raconte elle-même dans son autobiographie. Je pense qu'il y a comme un contrat tacite, si on peut appeler ça comme ça, c'est qu'on s'embête pas les uns les autres. Chacun va à Saint-Germain-des-Prés y trouver une forme de liberté, puisque la liberté est un mythe de Saint-Germain-des-Prés, une réalité, on sait pas trop en fait, une légende, une réalité. Et la liberté, c'est aussi de bénéficier de son corps, enfin de faire ce qu'on veut, d'avoir la liberté de se mouvoir librement, d'aller d'un point A à un point B, de rencontrer qui on veut, de parler comme on veut. Et c'est quelque chose à Saint-Germain-des-Prés, quartier des lettres et des idées, et à l'hôtel La Louisiane aussi, qui est très respecté. Et c'est vrai qu'à l'hôtel, on prend soin de ne pas mettre sous pression des personnes qui viennent créer, méditer, trouver refuge et qui sont là pour se rencontrer eux-mêmes aussi. Hein, beaucoup le disent.
Donc Jean-Paul Sartre a écrit dans l'hôtel.
Oui, Simone de Beauvoir, elle le raconte dans ses romans, ses correspondances. L'hôtel La Louisiane est cité. Qui d'autre? Beaucoup. Juliette Gréco parle de La Louisiane, sa demeure quand elle a 18, 19 ans, 20 ans, à la fin des années 40. Elle en parle dans Je suis faite comme ça, son autobiographie. Tout un chapitre est consacré à La Louisiane. Étienne Daou a écrit une chanson, une très belle chanson, Hôtel des Infidèles, qui chante dans l'album Blitz en 2017, où il cite la Louisiane qui est inspirée de l'hôtel. Il parle de sa jeunesse, de ses 17 ans à l'hôtel quand il était à Saint-Germain-des-Prés et qu'il découvrait ce Paris qui allait devenir le terrain de jeu et d'expression de sa musique. Albertine Sarrazin en parle aussi dans ses confidences, dans son journal intime. Beaucoup de monde en fait.
Charlotte Saliou, invitée de la bibliothèque de Radio Orient le week-end dernier pour son roman Le Refuge des Étoiles, roman publié aux éditions Black Elephant, la bibliothèque de Radio Orient, une émission présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sûr Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.